Dans le cadre de la folle histoire des arts de la rue, Karwan accueillait à l'Estac les 18 et 19 mai 2013 une édition marseillaise de Dream City, Biennale internationale d'art contemporain dans l'espace public, née en 2007 à Tunis, à l'initiative de Selma et Sofiane Wissi. Samedi 18 mai, une pluie battante venait contrarier le bon déroulement de la manifestation et nous empêchait notamment de réaliser un travelling radio pour déambuler dans le quartier à la rencontre des artistes programmés. Mais la grenouille n'a pas peur de se mouiller et passer entre les gouttes et en mode reportage pour vous donner à entendre quelques aspects de cette manifestation, certes pluvieuse, mais néanmoins heureuse. On commence avec Anne Guillot, directrice artistique de Karwan, qui nous raconte sa rencontre avec Dream City.
J'avais déjà largement entendu parler de Selma et Sofiane sur le tour de Dream City, notamment par des artistes qui étaient déjà allés, artistes français, mais pas seulement. Et notamment, visiblement, ils ont parlé avec une certaine aura, il se passe quelque chose là-bas. Et on sentait que la façon dont ils l'évoquaient avait été, pas seulement ils avaient joué, mais ils avaient été saisis dans une implication qui les avait vraiment sollicités à un endroit artistique. Et Selma et Sofiane, je les ai rencontrés autour du bus expo de la Folle Histoire, c'était le bus expo à l'époque. Selma n'arrivait pas à en sortir. Et puis on a parlé, on a évoqué tout ce qu'ils faisaient. Là, j'ai bien compris pourquoi, effectivement, les artistes me parlaient de cette différence. La différence tenait dans une exigence et un accompagnement éclairé et une expertise auprès d'artistes qui avaient peu de pratique de l'espace public. Et donc, puisqu'il y avait une année 2013, puisqu'on pouvait rêver haut et fort, on s'est dit, en discutant, que la folie, c'était carrément de transposer Dream City et de proposer pas simplement d'accueillir des artistes, mais cet exercice bizarre et très ambitieux de déplacer une démarche et d'accueillir une démarche.
Le choix de ce quartier de l'Estac, c'était un choix partagé avec eux, c'était une proposition de votre part ?
Oui, c'est un choix partagé, c'est-à-dire que nous avions fait une proposition, trois quartiers. Je ne vais pas dire les autres parce que c'est discriminant pour eux, c'est Bub et Bub, et ils ont choisi l'Estac. Nous, ça nous convenait très bien, mais je crois que c'est l'imbrication, c'est aussi le passé artisanal, le passé ouvrier. C'est la mixité sous l'ouverture sur la mer. Nous, ça nous convenait très bien parce qu'on est en proximité, en étant à la Cité des Arts de la Rue, on est en proximité avec l'Estac. Et qu'effectivement, on se retrouvait dans un vis-à-vis de Méditerranée qui était aussi symbolique. On était face à face, les rives face à face.
Une programmation partagée, elle aussi, dans l'ensemble des manifestations et des performances qui sont proposées ici à l'Estac. Une partie choisie par eux, une partie choisie par Karwan.
Très peu. C'est vraiment, pour moi, c'était important d'accueillir une démarche, d'accueillir, de déléguer le choix artistique. Donc j'ai essayé d'être le moins intrusive possible. Parce que déjà, c'est difficile de réadapter, parce que Selma et Sofiane ont un dispositif qui est bien plus long et bien plus lourd et bien plus encore exigeant que ce que nous avons fait. Nous avons fait une transposition aussi en raison des disponibilités des uns et des autres. Mais je ne souhaitais absolument pas, pour moi c'est important, que ne pas être intrusive. Alors je ne l'ai fait que sur une proposition, c'est sur Equipose. Et c'est plus conjoncturel, Equipose a joué dans le cadre de la Folle Histoire à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il me paraissait important qu'il puisse aussi être visible à Marseille, Et comme la couleur était méditerranéenne, je n'avais pas l'impression de trahir. Bon, Selma et Sofiane ont été d'accord, mais sur le reste, non. J'ai évidemment tout regardé, évoqué des vidéos qui pouvaient ne pas être très comprises, tout simplement. Mais de toute façon, le choix leur revient.
Une programmation qui est tout sauf spectaculaire, en ce sens qu'elle s'installe dans les coins et les recoins de ce quartier, elle y développe des projets, des propositions qui sont faites pour de petites jauges de public, dans un rapport intime avec celui-ci. C'est un peu l'antithèse du vieux port entre flamme et flot, Dream City.
Alors c'était vraiment un choix de programmation artistique sur l'ensemble de la folle histoire. C'est une programmation qui a plein d'entrées, d'entre les entrées européennes et méditerranéennes, c'est assez visible, mais il y a aussi cette sorte de panorama des modalités de présence et d'intervention dans l'espace public, des modalités de convocation. Et mon attachement aux arts de la rue, il est bien dans cette diversité, et particulièrement dans cette couture vraiment à même le territoire, au recoin près. M'importe, comme il m'importait d'arriver à cette grande ambition d'arriver à mettre de la poésie à l'échelle d'un vieux port. Ce qui est, je crois, ce que nous sommes arrivés à faire. C'est-à-dire que là non plus, c'était pas spectaculaire. Et ça a pu. Oui, c'est, à la fois, ça allait totalement, parce qu'une telle envergure, ça l'était. Mais je sais que des regards novices qui attendent des arts de la rue, beaucoup de bruit et de flammes, on peut être déçus. Alors qu'évidemment, c'était absolument pas ça. La performance, elle était dans le maintien n'avait pas de sens, mais embarquer dans un climat poétique un vieux port complet et sa population.
Dream City 2013 à l'Estac, c'est une programmation qui nécessite une grande relation avec les habitants de ce quartier, qui viennent accueillir dans leurs magasins, qui viennent assurer la médiation des propositions artistiques. Comment s'est opérée cette relation avec le quartier de l'Estac, qui n'est pas simple, même quand on est Marseillais?
Alors la relation avec le quartier de l'Estac s'est faite dans une rencontre initiale avec l'association Rio et des artistes qui ont un travail très approfondi sur le patrimoine intime de l'Estac. Et Selma et Sofiane ont travaillé avec eux, ont échangé très longuement avec eux. Et c'est à partir cet écheveau de fil, que des lieux ont surgi, que des contacts. Et puis après, nous avons pris le relais. Et puis après, l'Estac, des personnes se sont proposées. Par ailleurs, sur les bénévoles, il y a aussi vraiment des bénévoles de Marseille, parce qu'il y a plus de 120 bénévoles là sur Dream City. Et des personnes qui se passionnaient justement dans ce rapport poétique avec un quartier dans son ensemble et de façon très intime et très travaillée au recoin près, à la grotte près, au tunnel près, etc. Et cet ajustement de l'œuvre avec l'endroit où il est placé.
Dream City 2013 s'insère dans la globalité de la programmation de la folle histoire de la rue 2013. Peut-être quelques mots sur le sens particulier que tu as voulu donner à cette édition 2013 de la folle histoire des arts de la rue.
Alors on est presque à la fin de cette folle histoire des arts de la rue et on est très content parce que ce que l'on avait projeté s'est avéré, c'est-à-dire une grande belle ouverture poétique. On avait programmé la folle histoire le week-end à Marseille et en semaine dans les villes-villages, en sollicitant les compagnies du département sur des projets de très actuels et de réveo. Et on a vu de belles choses comme le 17e arrondissement de Générique Vapeur, comme le concert de Jean-Georges et Gary Greux, mais aussi ouvrir sur des compagnies d'Europe et de Méditerranée. Donc Europe, par exemple, les Tractopelles a bien surpris. Mais on a été très, très content aussi de découvrir des Finlandais à Lambesque et Marignane. De la danse, une facture de danse assez classique, mais une scénographie et un jeu très rue, c'est-à-dire des accessoires et beaucoup d'humour. Pareil avec à Charleval où il y avait les batteurs de pavés qui ont vraiment fait vivre tout le village avec l'histoire des trois mousquetaires, et le public suivait, alors que c'était 3 heures continues, 3 heures chaque fois différentes, une sorte de performance. Donc on est satisfait de, enfin, en tout cas heureux surtout d'avoir pris à bras le corps cette chance de Marseille-Provence 2013, d'ouvrir les arts de la rue très ancrés ici à l'Europe, à la Méditerranée. Si c'était à refaire, ce serait bien ça que je referais.
Une première journée de ce Dream City 2013 en ce samedi 18 mai qui est un petit peu gâchée par la pluie, il faut le dire, mais en même temps de bon espoir pour demain. L'aléa climatique, c'est quelque chose auquel vous êtes accoutumé ?
L'aléa, oui. L'aléa climatique, l'expérience maintenant acquise, c'est qu'il ne faut jamais annuler. Il y a toujours, d'abord, il y a toujours des publics qui sont suffisamment convaincus pour venir, parce qu'il y a du monde, et j'en suis moi-même surprise, alors que, oui, parfois, il y a la pluie battante, mais tout fonctionne, sauf les spectacles à l'extérieur. Et que, bon, après, ben voilà, ce sont les aléas, et pour nous, c'est important que, on travaille à l'extérieur, il pleut. Et après, les artistes, à eux de choisir s'ils jouent ou pas. Je me souviens combien à l'Estac, particulièrement, il y avait Transexpress qui avait fait un moment absolument inoubliable, sous pluie battante, ils avaient joué Les Maudits Sonnants, et le public restait là, parce que les artistes restaient là, se perchés en haut, dans leur grand arbre géant, et ce sont des moments assez inoubliables aussi.
Merci Anne Guillot.
Merci bien.
Allons à la rencontre de l'ensemble Télémaque, presque au sec, dans un container sur le quai de la Lave. Solange Baron et Christian Bini y donnaient éclat. Pièce pour accordéon et percussion, composée par Alice Berny. Rencontre avec la compositrice Alice Berny, accompagnée et traduite par Raoul Lay, directeur de l'ensemble Télémaque.
He wrote this piece at the caserne of pompiers during the residence of 2011.
Italiano,
okay, italiano,
sì.
Dico. E allora dico, ho scritto questo pezzo nel 2011 durante la residenza.
Elle a écrit cette pièce en 2011.
Durante la residenza alla caserma dei pompieri.
Pendant sa résidence à la caserne des pompiers de Somatie.
Per l'ensemble Télémac.
Pour l'ensemble Télémac.
E il pezzo è diviso in due parti.
La musique est divisée en deux parties.
In due parti, una parte più rapida, più veloce e frenetica.
Une première partie plus rapide et plus frénétique.
Et une seconde partie plus rilassata, lente et méditative.
Une deuxième partie plus relâchée, plus lente et méditative.
Et ces deux parties dialoguent à l'intérieur del pezzo.
Ces deux pièces dialoguent à l'intérieur de l'œuvre.
Comment est-ce que cette pièce se relie ici avec ce quartier de l'Estac? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se...
Quelle est la relation dentro la tua musica e questo parte
di l'Estac? Aspetta, qual è
la relazione, la...
Ok, della mia musica con questa cosa l'Estac? E questo non lo so.
L'hai fatto alla caserma dei pompieri?
Ah, sì, forse per quello. Credo perché ho composto questo pezzo alla caserma dei pompieri che è qui all'Estac.
Cette pièce a été composée à l'Estac, à Somatie, dans la caserne des pompiers, pendant sa résidence.
Dans le cadre, je crois, d'un atelier de l'Euroméditerranée, c'est ça?
Sì, per gli atelier de l'Euroméditerranée.
Donc c'est une pièce qui est née ici, en fait. Donc il est juste qu'elle retrouve son lieu de naissance pour continuer à exister devant le public nombreux de Dream City.
Et sur la relation entre Télémac et puis cette composition, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés associés dans ce projet, vous?
La question est sur les... la tua scrittura, ma in direzione dell'ensemble Télémac per questa musica. Gli interpreti e...
Ah, gli interpreti, ok. E io avevo scritto una parte di brano in Italia.
Voilà, elle a commencé à écrire une partie de l'œuvre en Italie.
Et l'ho terminata qui alla caserma dei pompieri.
Qu'elle a terminé ici.
Con i musicisti che erano Christian Bini et Jean-Marc Fabiano.
Pour les deux musiciens Christian Bini et Jean-Marc Fabiano, qui était le premier accordéoniste à jouer l'œuvre.
Et con loro abbiamo cambiato alcune cose della mia musica che non funzionavano o non erano perfettamente, diciamo, corrette.
Avec eux, elle a expérimenté des moments de l'œuvre qu'elle a modifiés, qu'elle a retravaillés, qui lui paraissaient aller mieux après les conseils des musiciens.
Et pour créer un suono qui era poi quello che io volevo, di fatto.
Qui était un son qu'elle recherchait, qu'elle voulait. Et donc qu'elle a fait en écrivant d'abord, puis avec les musiciens après. Thank you.
petit détour par le magasin Lestac Couture, dans la vitrine duquel trônait Swab Ben Slimane, pour une performance théâtrale intitulée « Fin de série ».
Là, il y a un buffet, mais t'as... Oui, il y a un buffet. 145 دينار و 385 مليم شو شميتا هذا الكل على جد ما روحها ما حدش مرتاح ياسر تعجبني اغنيتك المسلسل يزمن نعمل تعسل سيدي بومنديل نشي شوية مغارف يجرحوا مش نعمل لهم ما حدش مرتاح ولسقط يظهر عليه الكوب سامع خل نغني فمش ما يطلع اش قاله الاخر الشبق اي شبق فمش ما يظهر عليا الشبق يعطيهم سخطة محلى كلامهم كي جيت نخدم غادي خير لا وش تزغريت والكسكسي من عنا والبارود من عندهم ما حدش مرتاح هذه هي يمي بتاعي نصب مخي يسكت شوية ونش مهزني سيدي بومنديل أو كنصب في كل بقعة تعشكون هي غنية المنديل وردة ليه 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 مش وردة قد غلطتني ياسر غلطتني ما حدش مرتاح عملت شبو ماذا في ساقي سكر 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 مخك سكر حط غنية فمش ما يظهر عليك الشبق يا خموري هس الغطاء الخدية خموري هس الغطاء يا خموري اضحك نشوف انيابك التبروري هز الغيطان هذه ياسر تفكرني فيها الاخرى 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 استنى كيفاش تبدا هي ياسر حلو لا لا في قلبي نار ونيران يا لي سهرانة لا لا مالك نزلة سواقي ويدان
Swab Ben Slimane, bonjour.
Bonjour.
Alors la pièce que vous présentez met en scène une dame qui est en vitrine et qui attend le client. Qui chantonne sur des airs de comptines. Et je crois que c'est une référence à l'attaque d'une maison close qui a eu lieu en Tunisie, dans votre pays, en 2011, une attaque par les salafistes. C'est donc une performance qui a un contenu et un sens politique pour vous ?
Oui, politique et humain aussi. Humain parce que, politique parce qu'il y a eu cette attaque de la maison close à Tunis, tout de suite après la révolution. Et c'est ça qui m'a inspirée pour ce spectacle. Et puis il y a autre chose qui m'a inspirée, c'était un très beau documentaire sur les travailleuses du sexe, qui m'est resté dans la tête quand je l'ai vu à Arte.
Donc il y a eu cet événement de la maison close et ça a donné ce spectacle qui ça a donné ce personnage d'une prostituée qui défend ses choix et qui dit je suis la femme, je suis l'artiste. C'est aussi l'artiste.
Il y a une dimension humaine donc avant tout dans cette performance.
Absolument, il y a une dimension humaine. Ça ne victimise pas la prostituée. Bien au contraire, ça défend son choix et ça n'accuse pas l'homme aussi. Ça réconcilie avec ce regard qu'on peut avoir des hommes qui fréquentent les maisons closes parce qu'elles rendent service aux femmes, puisqu'elle est le rempart aussi pour les femmes.
Mais est-ce que vous pensez que le statut des travailleuses du sexe est devenu plus difficile maintenant dans votre pays, dans l'après-révolution, et avec la pression actuelle des moralistes qui est très forte dans votre pays ?
Oui, ça devient un peu difficile parce que après cette tentative de fermer la maison close de Tunis qui est très célèbre, ils ont essayé de fermer aussi celle à l'intérieur de la République. Et c'est ces femmes-là qui sont sorties dans la rue, justement, pour défendre leur métier. Donc c'est un peu, on est dans une période un peu sensible, là.
Vous êtes venue ici à Marseille, à l'Estac, à l'invitation de Karwan, et puis surtout de Dream City, festival qui d'habitude a ses quartiers à Tunis. Est-ce que vous penseriez pouvoir faire la même performance à Tunis ?
Mais on l'a déjà faite. C'est déjà fait, on l'a présenté en pleine Médina de Tunis au mois d'octobre et à la Médina de Sfax au mois d'octobre à Sfax et au mois de septembre à Tunis.
Quelles étaient les réactions des spectateurs ?
Ben, très bien, ça a marché, ça n'a choqué personne. Ça n'a choqué personne parce que c'est un propos tendre qui n'est pas frontal, qui n'est pas provocateur. Au contraire, c'est vraiment très humain. De toute façon, c'est ce que pensent les spectateurs. Je ne vais pas parler de mon texte parce que... Oui, c'est vraiment très, très humain. Ça parle de l'humanité de ce personnage et de ce genre de personnage.
Souad Ben Slimane, vous êtes aussi, je crois, journaliste. Mm-hmm. Vous êtes aussi actrice au cinéma. Je pense notamment à L'homme de cendre de Nouri mm-hmm. Bouzid, dans mm-hmm. lequel vous jouiez, je crois. Peut-être, quelle est la situation de la culture, des industries culturelles, des programmations culturelles dans votre pays aujourd'hui ?
Aujourd'hui, vous voulez dire en période post-révolutionnaire, c'est ça ? Il y a beaucoup de gens qui font des tas de choses. Il y a une nouvelle génération d'artistes qui font un travail de proximité, qui travaillent surtout dans la rue, des graffeurs, des graphistes, des musiciens, des associations qui font des tas de choses et qui se déplacent à l'intérieur de la République pour faire un travail aussi de proximité avec les gens. Les gens du théâtre sont en train de revoir et de leur manière de faire et leurs propos parce que la situation est différente. La manière de dire les choses n'est peut-être plus la même ou ne doit pas être la même, je ne sais pas. En tout cas, ça se réfléchit. Il y a sur l'espace, dans le milieu culturel, ça réfléchit beaucoup en cette période-là. Et ça bouge quand même, hein, malgré tout, ça bouge. Malgré le manque de moyens, malgré qu'il n'y a pas d'infrastructures, assez de moyens pour travailler, ça bouge énormément. Et puis voilà, l'exemple de Dream City, c'est le meilleur exemple, à mon avis. Oser travailler dans la rue qui nous était interdite, parce qu'il y a trop de sécurité, parce qu'il y a trop de police, parce qu'on n'a pas le droit de... Parce qu'on dirait que la rue ne nous appartient pas, elle ne nous a jamais appartenu. Et Dream City est venu, d'ailleurs avant la Révolution, pour que l'on récupère notre rue, quoi. Et c'est magnifique ces gens, les habitants de la Médina qui s'impliquent avec nous. Et ça a créé une dynamique incroyable et ça a même influencé le commerce dans cette région de Tunis.
Pour conclure, Swad Ben Slimane, quelques mots sur les musiques que vous nous faites entendre dans cette performance.
Ah, c'est une musique de ce qu'on appelle les musiques du monde. C'est un CD qui m'a été offert par Steve Shahinan, que j'ai interviewé. Steve Shahinan et Youssef Idrissi, un Marocain. Steve Shahinan, c'est un Américain qui font de la très très belle musique. Où il y a beaucoup d'influences de tout genre, de la musique occidentale et orientale et maghrébine, etc. Donc c'est des morceaux qui m'ont plu et qui m'ont parlé et je les ai utilisés pour les mettre dans la tête de mon personnage.
Merci Swad.
Je vous en prie, merci beaucoup.
أكثر قاسيا حيران على الله شعلوا في قلبي نار ونيران بات ليالي سهران على الله الوالد نزلا سواقي ويدان
حد صوته
ناري
ببالي
هاي محتاري عليك كون هكذا قاسية
ماذا بيع من الشطحة قد الشيء يشوش قد الشيء يفرح
de la différence des lecteurs et des attachés de presse. Mi-octobre, 6 semaines plus tard, loin de Saint-Germain-des-Prés. Les prix littéraires ne sont pas encore décernés. Un poids lourd descend une rue de Vigneux entre Villeneuve-Saint-Georges et Orly. Arrivé aux lisières des cités que l'on appelle sensibles, il franchit les portes d'une entreprise spécialisée dans le recyclage de matériaux. Le camion décharge une benne remplie de 10 tonnes de livres. 10 tonnes de livres roulent sur le béton comme 10 tonnes de pommes de terre. N'importe quel livre, en vrac, pêle-mêle. Des biographies du président de la République encore chaudes, des chroniques des Jeux Olympiques de Pékin, des cahiers de devoirs de vacances, des romans de présentateurs de télévision écrits par des mercenaires, des livres pour enfants, des fiches cuisine, des encyclopédies. Dans le tas, 10 000 exemplaires de la bouleversante autobiographie. 10 000 fois l'objet unique, le précieux reliquaire des aveux intimes et des pensées délicates. Un bulldozer pousse les 10 tonnes de mots sur un tapis roulant. Le tapis roulant les monte vers le cylindre de la broyeuse qui les avale. Ils disparaissent. On entend le bruit des roues dentées qui les déchirent. Fini les simagrées. Le même drame se rejoue plusieurs fois par jour. La dramaturgie compose entrée de camions, agitation spasmodique des engins élévateurs et des bulldozers, éviscération des volumes. Fracas des machines crachant leurs ballots de matière. Théâtre de la cruauté, mixant le sacré et la matière brute, fascinant dans sa frénésie mécanique. À l'autre bout de la chaîne digestive sort un ballot compact d'un mètre sur un mètre. Il est composé d'un amas de pages lacérées. On reconnaît le Suédois sans peine, en forme grâce aux plantes, baiser brûlant, Yuki contre les martiens, etc. Et ici, sortant à demi du paquet, morceau d'entrailles échappant d'un ventre. Un bout de page de l'autobiographie bouleversante qui bavarde tout seul dans le tas de paroles mortes. Tel est le pilon. Un mot qu'on ne prononce jamais entre les murs d'une maison d'édition. Il existe, mais on ignore où il se trouve. Comment se déroulent les opérations. L'écrivain préfère ne pas savoir. Les livres disparaissent en douce, comme on liquide des condamnés au fond de cachots discrets. Et l'on surveille de près le trajet des ouvrages vers leur destruction. Au départ, l'entreprise de recyclage laisse une benne dans les entrepôts du distributeur. Celui-ci la remplit progressivement avec des livres trop longtemps stockés et que plus personne ne demande. des tirages excessifs ou encore des ouvrages présentant un défaut de fabrication. Souvent, le distributeur déverse dans la benne des palettes entières de livres sous leur film plastique, intact. Car le pilon coûte moins cher que le stockage. Il rapporte même 100 euros la tonne de papier. Pierre Jourde, Le cauchemar du pilon, Le Nouvel Observateur du 30 octobre 2008. Udliv dit, Udliv, Histoire universelle de la destruction des livres. Pendant 200 ans, entre 550 et 750, l'Europe vit l'une de ses époques les plus ténébreuses. Non seulement les œuvres classiques ne sont pas recopiées, mais elles sont effacées afin que leur support soit utilisé pour des copies de textes plus lus et mieux rémunérés. C'est ainsi que naissent les palimpsestes, manuscrits dont l'écrit originel est effacé, pour transcrire un nouveau texte. Des ouvrages de Plaute, Cicéron, Tite Live, Pline l'Ancien, Virgile, Lucain, Juvénal, Frantin sont ainsi sacrifiés afin de faire connaître des sermons et des traités de théologie. Le pilon, c'est la même chose, non? On nous efface pour fabriquer avec nos ballots de papier d'autres livres, dans le meilleur des mondes.
Mustapha Benfoudil, bonjour.
Bonjour.
Tu viens de donner une lecture d'un extrait de l'Antilivre,
oui.
Un livre écrit, je crois, dans le cadre d'un atelier de l'Euroméditerranée.
C'est ça, exactement.
Alors peut-être sur la genèse de ce livre, comment tu l'as écrit?
Oui. Alors, comme tu as dit, c'est un EEM donc, qui a été monté en collaboration avec l'Université d'Aix-Marseille, donc, qui avait mis à ma disposition ce matin. Matériau particulier, intrigant, qu'on appelle le pilon. Donc c'est un peu les livres qui sont mis au rebut, qui sont destinés à être recyclés pour que ça devienne de la pâte à papier en bout de chaîne. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement fascinant. Et donc, j'ai pu faire cet atelier grâce à Madame Martine Mollet qui m'avait invité, et donc Marseille 2013. Et donc, je me suis plongé là-dedans. Au départ, je ne savais pas trop comment en tirer, on va dire, un objet littéraire. Et finalement, en fait, j'ai travaillé sur la métaphore du pilon. Donc, c'est un livre en fait qui est extrêmement stratifié. On trouve des références au pilon en termes techniques, c'est-à-dire la transformation des livres et comment, sur quelle base en fait ils se trouvent éliminés et rejetés du marché. Mais je travaille énormément sur en fait des segments en fait de ma propre histoire qui ont été détruites. Et comment j'y ai survécu et comment j'ai pu écrire avec ça. Donc je travaille beaucoup sur cette matière-là, c'est-à-dire le détruit et aussi bien sûr le pilonnage des personnes dans la société. Donc je parle énormément de ça aussi dans mon livre. Donc vraiment c'est le pilon comme métaphore de destruction d'un côté et puis recyclage au sens de recyclage des souvenirs, recyclage des peines, recyclage de la douleur, comment fabriquer de la vie. Donc c'est un peu ça le sens de ce livre.
Un anti-livre, c'est un livre contre
oui.
Quelque chose.
Oui.
Contre quoi, Mustapha?
Ben d'abord contre le marché, parce que c'est le marché aujourd'hui qui nous impose des canons esthétiques, des canons éditoriaux. C'est le marché qui décide si un livre doit exister ou pas, et décide aussi de sa durée sur le marché. Et en amont, ça détruit aussi à l'intérieur des artistes ou même des personnes qui veulent soit écrire ou faire du cinéma ou faire du théâtre, ou faire ce qu'ils veulent, on a l'impression qu'il y a comme ça une espèce de charte non écrite qui impose des codes pour pouvoir exister sur le marché. Et donc c'est d'abord une charge contre le marché, d'où sa forme un peu intrigante. C'est-à-dire j'ai fait exprès de choisir cette forme. Donc c'est un pied de nez en fait à l'ordre narratif dominant, comme dirait Christian Salmon. Et d'un autre côté, c'est anti parce que c'est un hommage que j'ai voulu à tous les livres qui ont été détruits, qui ont été brûlés, qui ont été violentés, mutilés, en raison de ce qu'ils racontent, donc ce qu'on appelle la censure, et ce que j'appellerais le pilon politique. Et ces livres-là, bien sûr, ils sont dans une forme comme ça, eux-mêmes, contre un ordre dominant politique, social, idéologique, philosophique, et moi je leur rends hommage.
Le livre, c'est aussi quelque chose qu'on partage par la parole, comme tu viens de le faire, à travers une lecture publique. Une lecture qui est parfois aussi dans l'espace public. Là, aujourd'hui, tu n'es pas dans la rue du quartier de l'Estac, mais dans la librairie L'Encre Bleue. Mais je crois qu'avec quelques amis écrivains, tu participes à un groupe qui s'appelle BZF et qui se donne justement pour mission de partager la littérature dans l'espace public. Quelques mots sur cette intention.
En fait, Bezef est né d'abord d'une expérience individuelle qui s'appelait Lecture Sauvage. C'était à l'été 2009 où j'avais décidé un petit peu de porter mes textes dans la rue parce qu'il se trouve que je vis une situation assez singulière dans la mesure où je vis en Algérie, mais mon théâtre, par exemple, est entièrement joué à l'étranger. Et moi, j'ai voulu un petit peu donner à entendre ces textes, même d'une manière un petit peu sauvage. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à occuper d'une manière intempestive l'espace public, des lieux qui ne sont pas des lieux de culture, entre guillemets. Donc, c'est l'espace public, c'est des musées en plein air, ça peut être des parkings aussi, des maisons abandonnées, des terrains en friche. Mais à chaque fois, ça tournait à l'affrontement avec les forces de l'ordre parce qu'on était sous le coup de l'état d'urgence. Et c'est comme ça qu'en fait, des auteurs m'avaient contacté en me disant est-ce qu'il ne serait pas possible d'imaginer ensemble une action. Et c'est comme ça qu'on a créé ce groupe qui veut dire « On a marre ». Dans l'esprit, c'était de la réappropriation de l'espace public par le truchement de la parole poétique, et par, de manière générale, avec les moyens de l'art. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait pas mal d'actions, d'interventions à Alger et même dans d'autres villes. Malheureusement, après, disons qu'il était notre forme, elle était précurseur de quelque chose si on pense à ce qui s'est passé dans les sociétés arabes, à ces mouvements insurrectionnels qu'on vit depuis la révolution tunisienne. Et donc, il y avait les peuples. Ils ont placé la barre très haut. Et du coup, cette forme devenait un petit peu caduque. Et nous, on se réjouit quand même que depuis l'état d'urgence a été levé, même si l'occupation de l'espace public reste toujours problématique en Algérie. Mais personnellement, je pense à des formes qui soient à la hauteur de ces exigences populaires. Donc c'est quelque chose qui avait du sens à un moment, mais qui n'a plus de sens maintenant. Mais je reste très attaché à ces formes d'intervention intempestive et sauvage et illégale et semi-clandestine.
À travers ce que tu dis de l'enjeu de cette réappropriation de l'espace public, on comprend que pour toi, l'activisme culturel et l'activisme politique, c'est deux faces d'une même chose.
Oui, absolument. Parce que c'est l'espace, pour moi, artistique, c'est une continuation de l'espace citoyen par d'autres moyens. Par exemple, quand dans une pièce que je pense que vous avez vue, « De mon hublot utérin, je te salue, l'unité te dit, blablabla », qui parle des halagas, je pense qu'on n'est pas totalement dans un espace de fiction, même si, bien sûr, ça reste quelque chose d'extrêmement travaillé artistiquement. Mais c'est quelque part, c'est comme si ces haragas, ces exclus de la société, ils arrivaient sur le plateau pour leur dire, raconter leurs histoires. Et dans ma dernière pièce, ça parle aussi des immolés par le feu. Et pareil, je me dis que ce sont jamais des choix anodins. Donc moi, c'est des formes d'engagement subtil, déjà par le choix des thèmes. Après, bien sûr, à l'intérieur, il y a différents registres de paroles, il y a une complexité dramaturgique, mais à la base, déjà, par les choix de mes thématiques, pour moi, c'est aussi ça, c'est aussi une manière de dire on ne peut pas être dans le divertissement quand il y a des gens qui se brûlent.
Ce refus du divertissement, d'une culture de spectacle, cette forme d'engagement politique que tu décris, elle rejoint parfaitement l'état d'esprit de Dream City.
Exactement.
Quelques mots sur Dream City et sa venue ici à l'Estax, ce que tu en ressens, ce que tu en penses.
Eh bien, ça rejoint parfaitement, justement, l'idée que je me faisais de l'art en espace public, quand on avait lancé Bezef ou avant avec les lectures sauvages. Et là, quand j'ai découvert Dream City, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais vivre ça à Alger. Et donc, dès que Sofiane et Selma Wissi m'ont fait l'honneur de m'inviter au Dream City 3, ce qui s'est passé à Tunis et à Sfax en septembre-octobre, ça a été pour moi un pur enchantement. Et cette idée-là d'occuper la Médina, de proposer des choses extrêmement exigeantes artistiquement, mais qui soient la population s'empare, le petit commerçant, les gens du quartier, etc. Je trouve ça très très fort. Et ils ont pu réussir le challenge grâce à Karwan de ramener ça aussi aux dimensions de l'Estac. Et ici, où nous sommes chez Laure, à la librairie L'Encre Bleue, et je suis extrêmement heureux de vivre ça ici, d'être avec ces personnes enfin, j'ai eu le sentiment de les connaître et je me sens pas du tout dépaysé humainement. Et je trouve ça, même si bon, j'ai foutu un peu le bordel, comme tu vois, parce que j'ai travaillé sur la notion de littérature comme déchet papier, et je m'en excuse, mais pour moi, c'est très très important cette mobilité-là. C'est une mobilité qui, je pense, qui permet de créer du lien dans un monde où on a l'impression que les gens deviennent dingues. Il y a une espèce de parano mondialisé sur le sécuritaire, sur la peur de l'autre. Et c'est bien comme ça qu'il y ait des moments de passage, qu'il y ait des passeurs, même si ça peut paraître... on peut pas passer pour des privilégiés, par avoir au Halaga par exemple. Mais je trouve que ce tissu humain qui se crée, mais enfin c'est un tissu ancien dans la Méditerranée, il y a énormément de tissage, mais dans ce monde-là qui se referme de plus en plus, qui devient parano, je pense que c'est extrêmement bien qu'il y ait des formules comme Dream City qui s'invitent à Marseille et que qu'il puisse y avoir ce dialogue, voilà, entre les artistes des deux rives et aussi à travers eux, entre les populations des deux rives.
Merci Moustapha.
Merci à toi Xavier. Non mais c'est bien, c'est...
Viens arrêter notre...
Non, c'est notre très bien, entretien. C'est... Contre toi, j'aime beaucoup ton idée de mettre les ambiances et tout.
Ainsi s'achève ce reportage sur la première journée de Dream City 2013, Voyage à l'Estac, enregistré le samedi 18 mai. Vous y avez entendu Anne Guillot, Alice Berny et l'ensemble Télémac, Swad Ben Sliman et Moustapha Ben Fodil. Après la pluie, le beau temps, le lendemain, le soleil était de la partie et nous permettait de déambuler dans les rues de l'Estac et Gare avec un travelling radio que vous pouvez retrouver sur radiogrenouille.com.